d'aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, en ce vendredi 28 février 2020. Avec vous, Jacques Aristide, à la une de l'actualité ce soir. Tous les regards braqués sur la Guinée à deux jours d'un double scrutin à haut risque après des mois de manifestations meurtrières contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé.
On est vraiment inquiets, même si l'État nous rassure que ce sera sécurisé.
Premier cas de coronavirus en Afrique subsaharienne, il s'agit d'un Italien dans l'État de Lagos au Nigeria. En République démocratique du Congo, décès du chef du renseignement militaire Delphin Kaimbi, il était accusé d'atteinte aux droits de l'homme. Après la mort d'une trentaine de militaires turcs en Syrie, Ankara riposte et mène des raids contre le pouvoir de Damas. Une escalade des tensions qui inquiète également à venir les sports et la minute de l'économie. C'est une nouvelle mission qui est avortée en Guinée après le bloc régional de la CEDEAO. L'Union africaine dit retirer ses observateurs dans ce pays où ont lieu ce dimanche des législatives et un référendum constitutionnel. L'opposition qui accuse le chef de l'État Alpha Condé de manœuvrer pour briguer un troisième mandat appelle au boycott et promet de perturber le vote. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, se dit préoccupé par les récents développements préélectoraux en Guinée, caractérisés par la poursuite d'une forte controverse sur le fichier électoral et l'impossibilité du déploiement de la mission de bons offices composée de 4 chefs d'État de la CEDEAO. Il indique avoir décidé de rappeler la mission d'observation déployée pour les élections législatives du 1er mars en Guinée. Le président Issoufou du Niger devait conduire la délégation des chefs d'État, mais leur homologue guinéen s'est opposé à leur venue. En début de semaine, l'Organisation internationale de la francophonie avait aussi retiré son soutien au processus électoral, citant l'absence de révision du fichier électoral. L'opposition continue d'appeler au boycott des scrutins de dimanche, demandant à ses militants de s'opposer à leur tenue, ce qui suscite les inquiétudes de la communauté internationale face à l'intransigeance dans les positions des deux camps. L'armée est en état d'alerte et la tension est vive à Conakry.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité aujourd'hui une résolution prolongeant une dernière fois jusqu'au 31 décembre prochain sa mission d'accompagnement politique à la Guinée-Bissau. L'ONU demande au gouvernement du pays d'œuvrer en faveur d'un dialogue inclusif. Cette adoption survient au lendemain de l'investiture du candidat donné vainqueur de la présidentielle par la commission électorale en Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, sur fond de contestations persistantes autour du résultat du scrutin. Le premier cas de coronavirus en Afrique subsaharienne a été confirmé au Nigeria aujourd'hui. Le malade est un Italien qui travaille dans l'État de Lagos, où il est revenu mardi dernier depuis la ville italienne de Milan. Le gouvernement nigérian rassure, des mesures urgentes ont déjà été prises pour parer à toute éventualité. Les détails avec Gilbert Tamba à Abuja.
L'homme, un Italien, travaille au Nigeria et il était revenu de Milan le 25 février dernier pour rejoindre Lagos. Le ministre de la Santé, Osagie Ehanire, affirme que le patient est cliniquement stable, sans symptômes graves et est pris en charge à l'hôpital des maladies infectieuses de Lagos. Pour éviter une propagation rapide du virus au Nigeria, les autorités sanitaires affirment avoir commencé à identifier tous les contacts du patient depuis son entrée au Nigeria. La nouvelle de la confirmation du premier cas de coronavirus au Nigeria a provoqué la panique au sein de la population. Mais le gouvernement affirme avoir renforcé les mesures pour garantir qu'une flambée épidémique au Nigeria soit contrôlée et maîtrisée rapidement. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique avec environ 200 millions d'habitants et il y a donc des inquiétudes concernant l'impact de la propagation du coronavirus à grande échelle. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Cameroun, le parti du président Paul Biya a remporté une majorité écrasante aux législatives du 9 février dernier. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, a ravi 139 sièges sur 180. D'après le Conseil constitutionnel, la participation a été modérée à 45,98%. Le scrutin a été marqué par le boycott d'une partie de l'opposition et les conflits meurtriers dans les deux partis anglophones du Cameroun. Les électeurs électeurs de ces régions seront de nouveau appelés à voter dans un délai de 20 à 40 jours. Il avait été nommé quand Joseph Kabila était encore président en République démocratique du Congo. Le chef du renseignement militaire, Delphin Kaimbi, est décédé d'une crise cardiaque à son domicile aujourd'hui, alors que d'après plusieurs médias, il venait d'être démis de ses fonctions. Delphin Kaimbi était un des officiels congolais sous sanctions internationales. Eddy Sango.
Le chef d'état-major adjoint de l'armée congolaise chargé des renseignements, le général Delphin Kaimbi, a été retrouvé sans vie à son domicile à Kinshasa. Le commandement militaire confirme avoir amené son corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire sans dire plus, sinon qu'une enquête était ouverte. Des proches parlent d'un suicide. Son décès est intervenu au lendemain de sa suspension de son poste du chef de la DEMIAP, détection militaire des activités anti-patrie. Il devait répondre aujourd'hui au Conseil supérieur de la sécurité, mais hier, il a été relevé de son poste. Le général Kaimbi, nommé à l'époque de l'ex-président Joseph Kabila, était sous les sanctions de l'Union européenne pour des exactions et entraves à la démocratie. Hier, à l'annonce de sa suspension, la responsable adjointe de Human Rights Watch avait, dans un tweet, écrit que c'était une opportunité pour la justice. Tibor Nage, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines et l'ambassadeur américain à Kinshasa, avait également salué sa suspension.
Également dans l'actualité en Somalie, au moins 12 personnes ont été tuées, plus de 20 blessées lors de combats entre l'armée gouvernementale et un groupe armé opposé à l'administration régionale. Les combats ont éclaté hier soir à Doumacéreb, capitale de la région semi-autonome de Goulmoudouk, et se sont intensifiés ce vendredi. Ils opposent l'armée du gouvernement fédéral à la milice soufie Alou Souna Wal Jama. Le parlement du Galmoudouk avait élu début février, président de la région, Ahmed Abdi Karié, un ancien ministre connu sous le surnom de Kourkour, soutenu par le gouvernement fédéral. Et puis les protestataires ont défilé nombreux à Alger pour le premier vendredi de l'an 2 de la contestation qui agite l'Algérie depuis février de l'année dernière. Une mobilisation toutefois moins importante que celle de la semaine précédente à l'occasion du premier anniversaire du mouvement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est une escalade des tensions qui inquiète la communauté internationale. Des bombardements menés par l'armée turque ont tué 20 militaires du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Ankara a confirmé avoir riposté à des raids attribués au pouvoir syrien et qui ont tué 33 soldats turcs dans la province d'Idleb. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient une réunion d'urgence sur ces derniers développements. Davantage avec Nathalie Barge.
Cette réunion est attendue à 21h GMT, a précisé le président en exercice du Conseil de sécurité, l'ambassadeur belge Marc Pextin de Buitzverve. La nuit dernière, les premiers bombardements turcs ont visé des positions du régime syrien dans la province d'Idlib, tuant 16 soldats, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce vendredi, 4 militaires syriens ont été tués par des tirs d'artillerie turque dans le nord-est de la province d'Alep. Des factions syriennes soutenues par les forces turques se trouvent dans ce secteur. Ankara a confirmé avoir riposté à des raids attribués à l'armée syrienne qui ont tué hier 33 soldats turcs dans la province d'Idlib. Les pertes essuyées par Ankara jeudi interviennent après des semaines de tensions croissantes à Idlib entre les forces turques et l'armée syrienne qui se sont affrontées à plusieurs reprises depuis début février.
Pour également tenter de maîtriser l'escalade brutale dans le nord-ouest de la Syrie, les présidents russes Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a mis en garde ce vendredi l'Iran contre toute tentative de faire dérailler l'accord historique qui doit être signé avec les talibans. Mike Pompeo a confirmé que les talibans respectaient une semaine de réduction de la violence, condition pour la signature prévue demain à Doha de cet accord qui doit ouvrir la voie à un retrait des troupes américaines. Après plus de 18 ans de guerre en Afghanistan, nous y reviendrons dans la partie magazine. Des incidents ont eu lieu à Paris aujourd'hui en marge d'une manifestation interdite d'opposants au concert de la vedette congolaise Fally Ipupa à Bercy, ce qui a conduit à l'évacuation partielle d'une grande gare de la capitale française. La police intervient pour faire cesser la manifestation, a fait savoir la préfecture de police de Paris, évoquant notamment des incendies de poubelles et de scooters dégageant un épais nuage de fumée noire. La partie souterraine de la gare de Lyon a été évacuée. Voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, résumé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le Parlement du Malawi a approuvé un budget révisé de 2,4 milliards de dollars pour soutenir de nouvelles élections et la mise en œuvre des projets de développement. Une partie des fonds ira à l'entretien des routes rendues impraticables en raison des fortes pluies. Les allocations des services de police ont aussi augmenté pour faciliter l'achat d'équipements d'ordre public, les ratios alimentaires et les uniformes. La Sonangol, la compagnie pétrolière angolaise publique, commencera à vendre ses participations dans plusieurs sociétés privées en avril. L'opération s'inscrit dans le cadre d'une action visant à privatiser les principaux actifs de l'État d'ici 2022. Cette année, l'Angola veut vendre totalement ou partiellement ses actions dans 81 sociétés par appel d'offres publiques, aux enchères et dans les introductions en bourse. La Sonangol et Ndiama, le géant du diamant, seront parmi les derniers. Pour terminer, la République démocratique du Congo est touchée par l'invasion des criquets pèlerins ravageurs dans sa partie nord. C'est une première depuis 1944, ont indiqué les experts, qui redoutent des conséquences agricoles calamiteuses pour les populations, notamment le risque d'une grave famine comparable à celle de 1944 lors de la dernière apparition d'insectes ravageurs dans ce territoire à vocation agricole. Ces derniers mois, les criquets pèlerins ont frappé 9 pays d'Afrique, l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée, la Tanzanie, l'Ouganda, le Djibouti, le Kenya, le Soudan et le Soudan du Sud.
Et maintenant, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo pour les sports. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Jonathan Valencia se signale encore au Tour du Rwanda.
Oui, après sa victoire sur les étapes 3 et 5, le Colombien s'est de nouveau imposé sur la 6e étape. Jonathan Valencia a parcouru la distance des 127 km séparant Mounsanze et Mouanga en 3h09 minutes 32 secondes. Il a devancé le Suisse Patrick Schelling et un autre Colombien Carlos Quintero. Valencia est le deuxième coureur du Tour du Rwanda depuis 2009, a remporté deux étapes consécutives. À deux jours de la fin de l'épreuve, l'Érythréen Nathanael Tesfazion conserve toujours le maillot jaune avec 1 minute 8 secondes d'avance sur le Rwandais Moïse Mugisha et 2 minutes 7 secondes sur Quintero. Demain, les coureurs vont s'adonner à un contre-la-montre individuel de 4,5 km dans la capitale rwandaise.
Début des quarts de finale aller de la Ligue africaine des champions.
Oui, le Raja Athletic Club de Casablanca reçoit le tout-puissant Mazembe ce soir. La suite, c'est pour demain avec d'un côté Al Ahly d'Égypte face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et de l'autre le Wydad Athletic Club fera face à l'Étoile du Sahel de la Tunisie.
En Coupe CAF, le Oroya se plaint de l'accueil d'Eniemba.
Le champion de Guinée, Didier Peu, l'accueille à lui réservé par les Nigériens à Aba, au Nigeria, pour le match des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération. Pour s'entraîner, le club de Matam a eu droit à un terrain vague, totalement dépourvu de pelouse, dans un complexe scolaire. Accusé, Enimba se défend, citant les règlements de la compétition. D'après les lois, Oroya doit se prendre en charge et n'obtient que le stade de match 24 heures avant la rencontre. Le match aura lieu ce dimanche, tout comme les autres rencontres de ces cas. Zanaco de la Zambie reçoit Pyramide FC d'Égypte. Les Marocains d'Assania Agadir font face à Al Nasr Benghazi. Les autres Marocains de la Renaissance sportive de Berkane se déplacent en Égypte pour y affronter Al Masri.
Les affiches des huitièmes de finale sont connues en Ligue Europa.
Le Séville FC, quintuple vainqueur de la compétition, sera opposé à l'AS Rome, la plus grosse affiche du tirage au sort. Une autre affiche opposant club italien à équipe espagnole aura lieu entre l'Inter Milan et Retafe, tombé de l'Ajax Amsterdam lors des 16e de finale. Manchester United, vainqueur de l'édition 2017, aura une tâche plus aisée contre le club autrichien de Linz ASK. L'Olympiakos, qui a éliminé Arsenal, affrontera de nouveau un club anglais, Wolverhampton. Le dernier qualifié pour les huitièmes de finale opposé à Bâle sera connu ce soir. Le 16e de finale retour entre Salzbourg et Francfort a été reporté d'une journée à cause de la météo d'hier. Les Allemands étant en très bonne posture après leur succès à l'aller 4-1.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Retour sur ce qui fait la une en Guinée. Le pouvoir en place à Conakry appelle les Guinéens à se prononcer ce dimanche sur une nouvelle constitution et élire leurs députés. Depuis mi-octobre dernier, au moins 30 civils et un gendarme ont été tués dans des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Les appels de l'opposition à non seulement boycotter, mais empêcher la tenue du double scrutin font craindre des accès de violence. L'armée a été mise en alerte depuis mardi dernier de la capitale guinéenne. Le reportage de notre correspondant Zakaria Camara.
À Conakry, nombreux étaient des Guinéens à se dépêcher ce vendredi vers les banques ou encore les marchés. Mariam, mère de famille, est sortie pour faire ses provisions.
On est vraiment inquiets, même si l'État nous rassure que ce sera sécurisé. Ça n'empêche qu'on ait la peur dans le ventre. On ne peut pas rester à la maison sans manger quelque chose. C'est le souci là, surtout nous les mères de famille. Et voilà, je suis même dans ces démarches. Je cherche à acheter beaucoup de trucs. En tout cas, la prévision pour ces quelques jours, on ne sait pas ce qui va se passer réellement. Et en tout cas, c'est la première chose qui moi, me préoccupe aujourd'hui. Trouver de la nourriture pour la maison. Et le reste, on verra.
Jeudi, des violences ont été signalées dans la capitale et à l'intérieur du pays. Des violences avec destruction du matériel électoral. Mohamed Lamine fait partie de ceux qui ont peur.
L'angoisse, c'est un double scrutin aux enjeux différents. Il y a aussi la peur, vu qu'on a essayé de constater par endroits des violences enregistrées dans nos ambassades, mais également dans certaines parties de la Guinée, ici à l'intérieur du pays. Donc on se demande, est-ce que nous ne serons pas attaqués le jour du scrutin, ce qui fait qu'il y a la peur au ventre, mais également on est pressé parce que ça fait près de 4 mois, on parle de ça et on veut en finir avec cette histoire d'élection.
Dans les rues de Conakry, on ne se fait pas prier pour se prononcer sur le double scrutin.
Ce n'est pas étudier rien, c'est débrouiller pour que je vais nourrir les 40 personnes. L'élection, c'est fini pas seulement. Si ce n'est pas voté, il y a l'autre qui va voter.
Personne ne peut rien contrôler. Tu fais quelque chose, tu as des mal. Il te fait quelque chose, tu as des mal. Vaut mieux tu le laisses faire ce qu'il voulait faire.
Moi, je voulais que tout Guinéen doit être uni. Pas dire que l'autre est Peul, l'autre est Malinké, l'autre est Kissi, l'autre est Thomas. Tout Guinéen va être uni.
On doit aller, tous ceux qui ne veulent pas voter, n'ont qu'à rester là où ils sont. Ceux qui sont prêts à voter, n'ont qu'à aller voter. C'est tout. Mon sentiment, c'est l'acceptation. Et l'apaisement total, puisqu'on ne peut rien contre la volonté de Dieu.
Dimanche 1er mars, les Guinéens devront voter pour renouveler l'Assemblée nationale, mais aussi se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. L'opposition politique et les organisations de la société civile ont promis de boycotter et empêcher ces élections. Les deux entités réunies au sein du Front national pour la défense de la Constitution ont une nouvelle fois lancé un appel aux ministres de quitter leurs fonctions et rejoindre, disent-ils, le combat du peuple. Demande entendue ou simple coïncidence, le ministre guinéen de l'enseignement supérieur, proche du président Condé, a présenté jeudi soir sa démission du gouvernement. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Burkina Faso, bras de fer entre les employés de la fonction publique et le gouvernement. Leur syndicat conteste l'application de l'impôt unique sur les traitements et les salaires, son imposition notamment sur les primes et indemnités des agents du secteur public. Pour les autorités du pays, cet impôt est la troisième source de revenus de l'État de Ouagadougou. Le point complet sur ce différend avec notre correspondant Lamine Traoré.
Parler de l'UTS, impôt unique sur les traitements et les salaires aujourd'hui au Burkina, est un sujet sensible, tant le débat fait rage. Mais les syndicats rassurent que ce n'est pas une fronde anti-UTS, mais une fronde anti-UTS sur les primes et indemnités des travailleurs du privé, du public et du parapublic. Zakaria Bayiri, secrétaire général adjoint du SNAID, syndicat national des agents des impôts et des domaines.
C'est que l'ensemble du mouvement syndical reproche à la mesure du gouvernement. Ça sous-entend une baisse des salaires et les travailleurs du privé n'auront plus de chance également d'avoir un allègement fiscal et qui vaudrait une augmentation salariale. Le gouvernement est en train de diminuer les salaires d'une part et d'autre part, le montant total de l'UTS recouvré fait 1,2 milliard pour le mois de février 2020. Ce qui veut dire qu'en réalité, le gouvernement cherche des recettes parce que tout simplement, il y a des charges auxquelles il faut faire face. Et au lieu de chercher l'argent là où il faut, il se rabat sur les salaires des travailleurs qui sont faciles à frapper d'impôts.
Le gouvernement aussi se veut rassurant.
Le gouvernement a décidé de plafonner le maximum que nous pouvons récupérer à 50 000 francs.
Rémi Danjinou est le porte-parole du gouvernement.
Plus de 73% des travailleurs, c'est-à-dire sur les 190 040 agents assujettis à l'UTS, plus de 73% payeront entre 0 et 5 000 francs maximum. Vous avez 93% des acteurs qui paieront entre 0 et 10 000 francs. Donc il y a 6 et quelques pourcents qui effectivement subissent des augmentations qui vont de 10 000 francs à 5 000 francs maximum.
L'UTS est une vieille imposition qui date des années 70. Il a été mis en œuvre par la loi des finances et depuis 2017, le principe de son extension aux primes et aux indemnités a été acté.
C'est un impôt qui est du 17 septembre 1970. Il n'a donc pas juste de développer l'argument tendant à faire croire que c'est une imposition récente.
Daouda Diallo, docteur en finances publiques, associé gérant du cabinet Fisk Consulting International.
C'est une vieille imposition pour des raisons d'opportunité. L'État n'avait pas imposé ses indemnités à l'impôt unique sur les traitements et salaires. Aujourd'hui, pour les mêmes raisons d'opportunité, l'État estime qu'il faut qu'il puisse imposer ses indemnités à l'impôt unique sur les traitements et salaires. Et cela d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons généré de nombreuses charges. Et on ne peut pas continuer à dire que ces charges-là doivent être prises en charge par une catégorie de travailleurs et qu'une autre catégorie de travailleurs doit être exempte de tout paiement ou du moins d'un paiement réduit d'impôt.
Pour les spécialistes, on peut faire des réaménagements, assouplir la loi pour essayer de satisfaire les travailleurs, mais refuser d'appliquer la loi est assez osé. L'UTS est le troisième élément de recette de l'État après la TVA, taxe sur la valeur ajoutée et les impôts sur les bénéfices. Pour 2020, l'État prévoit récolter 134 milliards de francs CFA à travers cette imposition. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Gros plan maintenant sur cet incident diplomatique entre Paris et Bamako. L'ambassadeur malien en France qui a accusé mercredi dernier des soldats français de débordement dans les quartiers chauds de Bamako a été rappelé dans son pays après avoir provoqué l'ire des autorités françaises pour des propos qualifiés de faux et d'inacceptable. Au lendemain des déclarations très mal reçues de l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo au Sénat incriminant la Légion étrangère, le Mali a décidé de rappeler son diplomate et de dépêcher son ministre des Affaires étrangères en France pour arrondir les angles d'après des responsables maliens. Pour une analyse, Modibo Dembélé s'est entretenu avec Mokhtar Assou, directeur de publication du quotidien en ligne Malikili.
ces propos de l'ambassadeur du Mali en France n'étaient pas appropriés de la part de M. Diallo, ambassadeur du Mali. Il aurait pu s'exprimer autrement, lui, son expérience, et dire ce qu'il a à dire au lieu de passer par des propos aussi directs.
Ne pensez-vous pas que ces propos risqueront d'attiser les sentiments anti-français qui sont déjà à un niveau très bas au Mali, sinon dans le Sahel?
Bon, je pense que, comme lui-même, il a dit dans ses propos, il n'y a pas de situation anti-française au Mali. Il y a plutôt, comme il dit, c'est des propos qui se sont attribués, hein, que c'est des gens qui se sont levés contre la présence militaire française au Mali. Je me dis que, vu la réaction, réaction du gouvernement du Mali, la présence du ministre des Affaires étrangères du Mali là-bas, ça devrait, côté français, jouer un rôle important dans les règlements de la situation. Maintenant, en ce qui concerne le peuple, il y a une partie déjà du peuple qui était contre la présence des militaires français au Mali et plusieurs marches qui ont eu lieu au Mali. Bon, il faut aussi dire que cela ne devait pas avoir un impact sur ça.
Le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Tchabilin Dramé, s'est rendu à Paris. Oui. Pensez-vous que sa présence pourrait calmer les jeux?
Oui, déjà, je sais que le ministre Tchabilin, c'est un homme politique qui saura placer les bons mots. Il contacte les autorités françaises sous l'angle qui pourra apaiser pour éviter une crise diplomatique dont le Mali n'a pas besoin en ce moment.
Qu'est-ce qui a lieu de changer actuellement dans la relation franco-malienne suite à cet incident diplomatique?
Je pense que ces positions ont déjà été revues et clarifiées à Pau à travers la réunion de nos chefs d'État avec celui de la France. Depuis, je pense qu'il y a eu assez d'actions militaires pour essayer de dissuader l'ennemi sur le terrain. Mais jusqu'à présent, c'est quand même difficile. C'est extrêmement difficile dans les centres, surtout. La présence du Premier ministre dans les centres récemment, là aussi, n'a pas joué à hauteur de souhait. Selon moi, il faut mettre à contribution les populations du centre et puis renforcer la coopération militaire entre le Mali et la France. Selon moi, il faut revoir le mandat de l'ONU. Il faut que la MINUSMA soit beaucoup plus active sur le terrain.
Était en ligne de Bamako Mokhtar Sow, directeur de publication du quotidien en ligne Malikilé.
Restez branchés 24 sur 24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Après 19 ans d'un conflit épuisant qui a coûté la vie à plus de 100 000 personnes, la guerre en Afghanistan pourrait prendre fin demain, samedi. Les protagonistes prévoient de signer un accord de paix à Doha, au Qatar. Toutes les parties semblent respecter déjà une trêve partielle depuis samedi dernier. Mais comme le rapporte Ayesha Tanzim depuis Islamabad, une crise politique interne a menacé de faire dérailler le processus. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le poste de contrôle des Surpuls sur l'autoroute Kaboul-Kandahar était constamment attaqué par les talibans. Depuis le début de la trêve partielle, les soldats qui gardent le poste poussent un soupir de soulagement. Abdul Qassim est un militaire afghan.
Nous avions l'habitude de faire face à des attaques incessantes. Chaque jour, chaque nuit, nous avons fait face à d'immenses difficultés. Maintenant, les choses vont beaucoup mieux.
Il en est de même pour les commerçants du bazar de Durrani, dans la province de Wardak, désormais. Ils ouvrent leur boutique pendant de longues heures. Omer Khan est commerçant.
J'avais l'habitude de fermer mon magasin à 17h, mais maintenant qu'il y a un cessez-le-feu, je ferme ma boutique à 18h. Tout le monde est heureux. Nous n'avons entendu aucun coup de feu au cours des deux derniers jours.
Une accalmie rendue possible par la trêve partielle convenue par les États-Unis et les insurgés talibans. Ils signeront un accord demain à Doha, au Qatar. L'accord prévoit une feuille de route pour le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, une des promesses de campagne du président Donald Trump. Il exige aussi que les talibans négocient avec d'autres Afghans, y compris le gouvernement, sur l'orientation future de leur pays. Mike Pompeo, secrétaire d'État américain.
Notre mission est très claire. Nous voulons aider et fournir une structure pour que les Afghans puissent finalement obtenir un résultat qui soit dirigé par des Afghans et qui soit une solution à long terme avec laquelle tout le peuple afghan peut vivre.
Mais le gouvernement afghan est dans la tourmente après l'élection présidentielle car le président sortant Ashraf Ghani et son rival Abdullah Abdullah réclament tous les deux la victoire. Cette impasse survient à un moment où les hommes politiques afghans devraient parvenir à un consensus sur la façon de négocier avec les talibans, selon l'analyste Michael Kugelman.
Et pourtant, au moment même où vous avez le plus besoin de ce front uni, ces divisions de longue date au sein de la classe politique se sont exacerbées à cause de cette crise ou sortie des élections.
Des divisions qui rendent difficile la mise en place par les autorités afghanes d'un front commun pour négocier avec les talibans, qui est la deuxième phase après la signature historique demain de l'accord entre les États-Unis et les talibans afghans.
Et bien voilà, c'est ici que nous allons clore Le Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagneux. Notre ami Dan Crafton était à la technique. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une très belle fin de semaine.
VOA Afrique.